Le magazine Femina de VOA Afrique.
Nous sommes avec Khalifa Dembélé, promoteur et fondateur du groupe scolaire Biasson Dembélé au Mali. Merci beaucoup d'être avec nous pour le magazine au féminin.
Merci madame, merci. Très heureux également d'être avec vous ici.
Vous êtes en visite aux États-Unis, c'est la première fois que vous venez et vous faites la promotion de vos écoles. Alors vous avez un groupe vraiment très important, donc vous avez plusieurs établissements. Pourriez-vous nous dire un petit peu quels sont ces établissements, où sont-ils et peut-être combien d'élèves cela représente-t-il approximativement?
Merci madame, très heureux d'être avec vous sur VOA. Je suis promoteur provisoire, comme vous l'avez dit tout de suite, directeur du groupe scolaire Biasson Dembélé, basé au Mali, précisément à la cité UNICEF. Alors, le lycée Biasson Dembélé, puisque c'est par le lycée qu'on a commencé, a vu le jour en 2005. Mais c'est en 2006 réellement qu'on a commencé à mener des activités. Et le lycée s'est érigé en groupe à partir de 2010. À partir de 2010, c'est devenu un groupe scolaire. Et aujourd'hui, nous sommes représentés à Bamako et dans la région de Mopti. À Bamako, et nous sommes à la cité UNICEF à Niamakoro, à Bakoudjikoroni à Sii, et nous sommes également à Kalabankoura. Et dans la région de Mopti, puisque c'est là-bas que le groupe existe, nous sommes à Sévaré, à Bandiagara et à Kourou. Et le groupe s'étend sur les trois ordres d'enseignement que nous connaissons au Mali. L'enseignement fondamental qui regroupe tous les primaires et autres, et l'enseignement secondaire, c'est-à-dire le secondaire général et le secondaire technique. Et enfin, l'enseignement supérieur, et comme nous avons deux universités, une première université à Niamakoro, toujours à Bamako, et la deuxième à Sévaré, dans la région de Mopti. Voilà.
Alors, dans cette région, est-ce que vous avez eu des problèmes par rapport aux questions sécuritaires?
Pour l'instant, je dis non, parce que les écoles sont un peu épargnées, les écoles sont un peu à l'écart de ces problèmes que nous rencontrons vers la partie nord. Et nous ne sommes pas tellement au nord, parce que nous sommes juste à la limite. Voilà. Donc, nous ne connaissons pas ce problème pour le moment.
Alors, dans les universités, il y a deux universités, c'est ça?
Deux universités.
Quel type de qualification dans les universités?
Et nous formons, comme on appelle, au niveau DUT, le diplôme universitaire de technologie. Et ensuite, nous formons en licence et jusqu'au master aujourd'hui. Voilà
ce que nous faisons. Est-ce que vous avez des spécialisations, des filières particulières que vous mettez en avant, des filières techniques, scientifiques, agricoles ou autres?
Oui, parce que chez nous, un peu, les choses sont un peu... Il y a une réglementation en la matière qui est là. Et on peut, il y a certaines filières, par exemple, comme le domaine de l'industrie, mines et géologie. C'est des filières un peu réservées à l'État. Et pour pouvoir former dans ces filières presque spécialisées, il te faut obligatoirement un parrainage et d'une université, par exemple, comme l'université publique qui forme dans ce domaine que nous connaissons à Bamako. Il faut avoir ces parrainages parce qu'on se dit aujourd'hui, et pour des filières de ce genre, tellement que les matériels que vous utilisez souvent coûte trop cher, et on suppose que les unes privées ne peuvent pas du tout s'en approprier, acquérir même ces matériels, et il faut impérativement avoir un parrainage. Et dès que tu as ce parrainage, tu peux former. Aujourd'hui, moi, je forme en mines et géologie au Mali.
Ok. Voilà. Ok. Et combien ça coûte pour un élève, hein? Un élève de primaire, par exemple, une année dans une de vos écoles primaires, ça coûte cher?
Bon, relativement, parce qu'on ne peut pas dire que ça coûte cher, vu ce que nous engageons dans l'amélioration de la qualité de la formation, vu ce que nous engageons dans les charges même de l'école, on ne peut pas dire que ça coûte cher. Hein. Et je ne peux pas l'évaluer en dollars ni en euros, mais pour quelqu'un qui fait, par exemple, la 9e année chez nous, et la personne paye 100 000 francs l'année scolaire.
Voilà. Et qui est-ce qui peut se payer ce type d'école? Est-ce que c'est la classe moyenne ou est-ce que vous avez des aides, par exemple, des bourses pour les familles les plus défavorisées?
Bon, souvent, il y a des cas sociaux que nous prenons, souvent gratuits, des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas les moyens de se faire payer les frais scolaires pour les enfants, pour les études de leurs enfants. On prend ces cas qu'on appelle des cas sociaux. Et sinon, là, je pense que c'est un peu à la portée de la moyenne. Voilà.
Est-ce que vous faites de la promotion pour que plus de filles, plus de jeunes filles puissent accéder à ces écoles?
Et ça fait partie même de la politique de notre gouvernement d'aujourd'hui, et de sorte que les filles ont un peu plus, beaucoup plus d'accès aujourd'hui aux études. Et l'État a commencé à encourager cela à travers même ce qui oriente après l'EDFC, qu'on appelle l'EDFC, nous. Et une fille, malgré les déroulements qu'il peut avoir au niveau, à la, en 9e année, aujourd'hui, quand elle est admise au DF, elle est orientée, contrairement à un garçon qui a ce même nombre d'années de redoublement, n'est pas orienté.
C'est-à-dire
C'est-à-dire une fille de 16 ans, par exemple, qui a peut-être échoué à son examen de passage au DF deux fois.
Oui.
Troisième fois, elle passe à son examen, elle est orientée avec ses 16 ans. Ce qui est contraire, c'est un garçon de 16 ans avec des redoublements qui n'est pas orienté.
Qui n'est pas orienté, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Orienté, ça veut dire n'est pas pris en charge au niveau secondaire par l'État pour ses études.
D'accord. Donc vous, vous mettez l'accent un petit peu sur les filles ou c'est le gouvernement qui vous l'impose?
Bon,
ou...
c'est une politique du gouvernement et de sorte qu'également tout le monde est en train d'encourager cela. Et c'est un peu partout.
Alors, vous avez, on peut voir une de vos promotions hein, sur votre groupe scolaire. Oui. Vous avez tout, vous avez les bus aussi, vous organisez tout, vous organisez le voyage scolaire, vous avez dans les universités des bibliothèques, vous avez en fait de bons moyens pour justement pouvoir vendre ces écoles, n'est-ce pas?
Oui. Nous, on a effectivement investi beaucoup. D'abord, les bâtiments que vous avez vus appartiennent
des beaux bâtiments
au groupe. C'est un de nos bâtiments et c'est là-bas que se trouve derrière moi mon bureau. Et on a également les bus. Il y a des bus moyens qui sont mis à la disposition de ceux qui sont au niveau primaire pour les transports. Et il y a des grands bus également qui sont là pour les voyages d'excursion. Et nous sortons chaque année, on organise des activités, souvent des voyages en dehors de la ville pour aller montrer des sites historiques, touristiques à nos élèves. Les bus sont faits pour ça.
Pour des jeunes, des petits qui ne sont jamais sortis
Qui ne sont jamais sortis, oui. On les amène à l'intérieur du Mali. Il faut reconnaître avec moi qu'il y a beaucoup de sites touristiques au Mali aussi. Hein. Donc on les amène là-bas avec des spécialistes qui vont les montrer ces sites et les donner des explications.
Donc vous mettez l'accent aussi sur la culture du pays, l'héritage.
Bien sûr, bien sûr.
Ouais. Dans quelle mesure vous travaillez avec le secteur public? Est-ce que vous avez des bourses du gouvernement ou pas du tout? C'est complètement privé?
Bon, nous avons des financements. Si je dis financement, c'est une subvention. Ce n'est pas un financement, c'est une subvention pour la frange d'élèves qui se retrouvent au niveau du secondaire, soit au secondaire technique ou bien au secondaire général. C'est à partir du DF que l'État les prend en charge, c'est-à-dire l'État les oriente dans des écoles qui peuvent assurer leur formation au niveau secondaire. Et à ce niveau, ils accordent des subventions en fin d'année à chaque élève.
Est-ce que vous proposez aussi une sorte d'éducation alternative? Vous savez, comme ces écoles un petit peu spéciales en Occident, qui suivent le cursus forcément officiel, hein, c'est obligatoire, mais qui apportent un petit plus aussi. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire par rapport à cela? Est-ce que vous pensez que vous apportez un plus par rapport au cursus ordinaire du public?
Apporter un plus, mais ça serait d'ailleurs une bonne chose. Et ça fait plusieurs années que moi je suis en train de faire des va-et-vient en France, effectivement à la recherche de ce genre d'échange hein, avec des écoles partenaires de la France. Et en termes d'échange pédagogique, de sens culturel. Et ce n'est pas seulement...
Mais il y en a déjà des échanges là qui se font ou pas du tout? Pas encore?
Moi, je ne peux pas dire que j'en ai encore trouvé.
Okay.
C'est tout dernièrement que j'étais au Ghana, que j'ai pu signer quelque chose avec un accord avec une université qu'on appelle Radford, qui forme en langue anglaise au Ghana.
Okay.
Et je viens d'avoir ce partenariat. Et aujourd'hui, nous comptons ouvrir un centre de langue à Bamako, et pour former ceux qui sont dans les besoins pour l'anglais, apprendre l'anglais. Voilà.
Vous signez donc des partenariats. Vous comptez également vous étendre au niveau international.
Tout à fait. Ouais. Et tout à fait. Et je suis là d'ailleurs à Washington pour ça. Je vais essayer de prospecter le milieu, voir si je peux avoir des partenaires dans ce cadre également. Et ça va me faire du bien.
Qu'est-ce que vous pensez de l'éducation au Mali, si vous deviez y apporter un regard critique? Qu'est-ce qui manque dans l'éducation malienne? Et en Afrique après, vous me direz.
Bon, je dirais ça, c'est tout domaine, toute activité. Hein, et il y a effectivement des difficultés. Nous, particulièrement les difficultés qui nous embêtent, je peux dire, ça c'est d'abord les problèmes des sites. C'est presque quelque chose qui est général aux écoles privées maliennes. Aujourd'hui, comment avoir un bon local pour loger son école? C'est une réelle difficulté qui est là. Mmh. Et après ça, beaucoup d'écoles aujourd'hui au Mali fonctionnent parce que l'État est solvable. C'est des subventions dont je te parlais.
Ouais.
Et si cet aspect disparaît, c'est sûr que certaines de ces écoles-là vont disparaître également. Parce qu'il faut reconnaître le niveau de vie au Mali, un peu bas, hein, de sorte que ce n'est pas donné à tout le monde de payer les frais de scolarité de son enfant. Mmh. Et l'État joue un grand rôle à ce niveau. Et je pense que c'est le même problème qui se pose pratiquement à l'ensemble de ces pays africains. Hein. Et parce que à l'école, il y a beaucoup de charges.
Mais pas tant que ça quand même. Quand je parle d'une petite école, une petite école de campagne, une petite école primaire de campagne, parce qu'on entend très souvent que les instituteurs ne sont pas payés. On a entendu ça dans tous les pays.
C'est à ce niveau que je voulais en venir. Oui. Hein? C'est pourquoi je dis ça à ce niveau que je voulais en venir. Il y a d'abord le problème d'instituteurs qui est là. Il y a également le traitement de ces instituteurs qui est là. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, les petites écoles de campagne dont vous parlez, c'est des écoles communautaires. Et ces écoles communautaires dont le sort est réservé à la commune. Et très souvent, c'est pas facile. C'est pas facile.
Alors que ça devrait être pris en charge par l'État.
Par l'État, mm-hmm. à un autre niveau. Mm-hmm. Donc c'est ça complique un peu la chose. Mm-hmm.
Comment vous expliquez le fait qu'en Afrique, ça c'est plus polémique, qu'en Afrique, en général, les dirigeants payent plus facilement les militaires que les instituteurs?
Ben là, à ce niveau, je n'ai pas trop d'appréciation, mais je pense que...
Vous connaissez le milieu enseignant quand même. Vous savez que dans beaucoup de pays d'Afrique, Afrique subsaharienne, il y a très souvent des enseignants qui sont en grève parce qu'ils estiment être mal payés ou pas payés du tout. Ça arrive très souvent. Nous qui sommes dans l'actualité, on peut en dire quelque chose.
Bon, écoutez, hein, je ne dirais pas payés du tout. Les salaires peuvent venir en retard, mais dire qu'ils ne sont pas payés, non, ça, je ne pense pas.
Mais ça n'arrive pas au Mali, ça.
Non, je ne pense pas que ça existe au Mali. Mmh.
Les résultats du bac, vous avez eu des bons résultats au niveau du bac ces dernières années?
Ah, cette année, oui, chez moi particulièrement. L'année dernière, si on était à 34%, cette année, on était dans les 78%.
Au bac. C'est un bon chiffre.
Hein. Très bon chiffre.
Au niveau de la moyenne nationale, ça représente quoi?
Au niveau national, c'était 24% en 2015, je veux dire, en 2016. Nous sommes dans les 30 et 34%. Mmh.
Voilà. Donc vous remontez la moyenne nationale, en fait. Votre groupe la remonte.
Oui, hein. Bien sûr. Nous sommes classés parmi les meilleurs. Mmh.
Ouais. La filière agriculture, c'est important au Mali, en Afrique en général, mais au Mali. Donc vous mettez beaucoup l'accent sur cette filière-là.
Écoutez, la filière agropastorale, nous sommes même allés là-dedans parce que nous avons dit que c'est des filières porteurs d'avenir aujourd'hui, pour qui connaît l'économie du Mali et qui se repose un peu sur l'agriculture et puis voilà l'élevage. Donc on a créé cette école, mais comme je l'ai dit, on attend toujours de l'État, hein, des élèves. Et malheureusement pour moi, cette année, je n'ai pas eu d'élèves à l'orientation parce que notre politique voudrait que le maximum d'élèves soient orientés et pris en charge par l'État. Et c'est quand l'État n'a pas de structure, par exemple, d'accueil pour l'effectif à orienter au DF qu'il pense au privé. Alors cette année, nous n'avons pas eu cette chance. Sinon, c'est ouvert. C'est une filière qui est ouverte à tout le monde. Mmh. Pas question de genre, filles comme garçons.
Mais quels sont les domaines clés d'agriculture qui sont vraiment importants, sur lesquels vous mettez l'accent?
Nous formons des monitrices, hein, des techniciens d'agriculture, des techniciens
d'élevage. Mais quel type d'agriculture?
Et l'agriculture ordinaire que vous connaissez, mécanique, que nous faisons au Mali, c'est ça.
Ouais.
Voilà, c'est des techniciens d'agriculture que nous formons. Voilà.
Donc il faut beaucoup de matériel aussi pour faire ça.
Il faut beaucoup de matériel, évidemment. Et d'ailleurs, la formation agro-pastorale ne peut pas se faire sans le matériel. Et ça fait partie même des conditions d'attribution, d'acceptation de l'agrément. Voilà, l'autorisation de l'ouverture, je veux dire.
Les nouvelles technologies, les ordinateurs, tous ces trucs-là qu'on utilise aujourd'hui pour travailler, ça, c'est aussi partie intégrante de vos écoles, c'est très moderne, c'est ça?
Tout à fait, et tout à fait. Aujourd'hui, c'est une situation qui s'impose d'ailleurs à tout le monde. Hein. Et nous avons un parc d'ordinateurs assez intéressant. Et comme je le disais dans la publicité, vous avez vu avec une connexion haut débit qui permet également aux élèves de faire des recherches, de ne pas se limiter à ce qu'on leur dit seulement en classe et d'aller sur les nets et voir même les expériences de certaines écoles, peut-être à l'étranger, pour pouvoir enrichir un peu leurs connaissances. Voilà.
Comment vous vous projetez sur l'avenir au niveau de votre groupe scolaire? Vous voyez une sorte de... que cela va s'étendre sur l'Afrique, sur différents pays? Vous voyez plus de connexions avec l'Occident au niveau éducatif?
C'est un de nos souhaits et le premier pays, je dirais, où j'ai eu même des contacts dans ce sens, la Centrafrique, parce que j'ai un ami qui est allé là-bas, qui a également des contacts au niveau du ministère de l'Éducation en Centrafrique, qui m'a contacté et a donné mon accord pour ouvrir également une représentation de mon groupe en Centrafrique. Et ça serait vraiment une très bonne chose. Et même aujourd'hui, si je trouvais des opportunités, que ce soit ici ou bien en France, où je vais régulièrement, je vais les exploiter.
Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Khalifa Dembélé. Oui. Je rappelle que vous êtes le fondateur du groupe scolaire Bienson Dembélé au Mali. Un grand merci. Merci pour la visite. À très bientôt.
Merci à vous aussi, madame. Merci à toute l'équipe de VOA. La Voix de l'Amérique pour cette interview, très intéressant également pour moi.
Merci beaucoup, merci, au revoir.
Entre parenthèses.
Au Maroc, la Rabita Mohammadia des Oulémas a lancé des cahiers scientifiques pour déconstruire le discours de haine et de violence des extrémistes. L'objectif est d'expliquer aux jeunes des concepts clés de l'islam tels que le djihad, la guerre sainte ou la jizya, en partant de la vision authentique du Coran et de la Sunna. Pour en savoir plus, j'ai joint à Casablanca le secrétaire général de la Rabita Mohammadia, Ahmed Abadi.
Ces concepts sont au nombre de 25. Et donc c'est une déconstruction du discours extrémiste et une reproduction de la compréhension originale avec preuve à l'appui que les compréhensions véhiculées, prônées par Daesh ne sont pas des compréhensions originales et pures. Et ceci par le biais de démonstrations se basant sur la charia et se basant sur l'exégèse reconnue par les musulmans. Donc ce sont eux qui auront à déconstruire et à répondre dans le futur proche.
Alors, dans la plupart de ces concepts, il en est un qui est extrêmement important, bien sûr, sinon le plus, le fameux concept du djihad. Quelle explication donnez-vous notamment aux jeunes pour qu'ils comprennent plus à même le concept du djihad?
Donc, dans le recueil qui est apparu, il a été trouvé que le djihad comprend 36 phases. Et ce n'est que les trois dernières phases du djihad où on peut parler de bataille ou de guerre. Mais cela commence dans le tréfonds des psychés des êtres humains. Donc c'est une purification interne qu'on appelle djihad. Puis il y a le djihad de la pauvreté, le djihad de l'ignorance. 36 genres de djihad et ce ne sont que les trois derniers qui contiennent cette dimension se basant sur les arsenals, sur les armes, etc. Et c'est un djihad de répulsion. Ce n'est même pas un djihad d'attaque, c'est surtout de répulsion pour défendre une nation, pour qu'elle ne soit pas assaillie par un ennemi donné. Voilà. Ce sont 36 genres et Daesh zappe tous ces genres-là et passe directement au dernier, au 36e.
Comment expliquez-vous le fait que autant de jeunes au Maroc, finalement, se laissent séduire par le discours de Daesh?
Il faut se rappeler le fait que maintenant le Maroc est passé au 7e rang. Et ce 7e rang, lorsqu'on prend conscience du fait que les Marocains n'ont pas besoin de visa pour aller en Turquie, et que Istanbul est une direction touristique et que les billets peuvent aller jusqu'à 90 euros le billet aller-retour, on comprend que ce nombre est insignifiant parce que ce sont des territoires ouverts et malgré cela, les Marocains ne sont que 7e dans le classement. Et ceci parce qu'il y a une approche pluridimensionnelle, complémentaire pour pouvoir conscientiser les masses de jeunesse du danger que représente un tel discours et de telle personne.
Est-ce que ces cahiers scientifiques vont être diffusés dans les écoles, dans les établissements scolaires, voire les universités ?
Bien sûr, on a pris conscience ici au Royaume du Maroc qu'un enfant n'est pas bien sûr attiré par les discours académiques. Les enfants, on doit jouer avec. Les enfants, on doit s'amuser avec. Sur un playground. Et c'est pour ceci qu'on s'est appelé à produire des dessins animés, des bandes dessinées et des jeux vidéo pour, bien sûr, diffuser ces valeurs positives et constructives par le biais de cette approche entertainment. Pour les jeunes, c'est l'éducation par les pairs. Il faut les accompagner. Les jeunes ne supportent plus d'être guidés, ne supportent plus qu'on leur dicte qu'ils doivent faire. Ils doivent être des acteurs, une partie prenante. Et donc, c'est une éducation par les pairs qui se base sur une capacitation, un développement de capacités, les habilitant à mettre la main dans la pâte sociale et être des faiseurs au lieu d'être seulement des gens qui vont mettre en place des choses qu'on leur dit.
Docteur Ahmed Abadi, ma dernière question, le rôle des médias dans tout ça ?
Les médias, bien sûr, ont un rôle principal parce que ces médias, lorsqu'elles acceptent le contenu négatif, déconstructif, lorsqu'elles acceptent de mettre la jeunesse en deuxième rang, c'est-à-dire consommateur, et pas le premier rang qui est le rang des faiseurs, et des acteurs, ces médias peuvent jouer un rôle capital pour, bien sûr, faire diffuser un sens constructif, mais aussi pour capaciter, pour donner un rôle aux jeunes, pour qu'ils puissent, bien sûr, avoir leur interaction, leur débat, et aussi la construction de projets et le suivi de projets.
C'était Ahmed Abadi, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas au Maroc. Quelle utilisation les jeunes font-ils des réseaux sociaux au Bénin ? Eh bien, c'est une question que s'est posée notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé, qui a tendu son micro à certains d'entre eux.
Ça vous donne une ouverture sur l'extérieur, le monde, le tiers du monde. Vous pouvez être au Bénin, savoir ce qui se passe en Taïwan, un peu partout. Mais l'autre côté, c'est pour tromper la vigilance. Je crois que c'est mauvais, c'est pas bien.
J'utilise ça souvent pour discuter avec les amis et aussi pour avoir des informations parce que souvent sur certaines pages Facebook ou Twitter, il y a des informations qui passent ou bien pour lire des articles sur certaines personnes et tout. Et je profite aussi des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer sur mon entreprise parce que bon, j'ai une petite entreprise dont je vends des produits, donc je publie les photos des produits et tout sur les réseaux sociaux.
Beaucoup, c'est toujours des selfies, c'est toujours des positions. On va même prendre des photos dans les douches pour montrer ça sur Facebook ou bien sur WhatsApp et on demande de commenter. Mais quand tu mets un sujet sensé, tu parles peut-être du VIH-SIDA, tu parles peut-être d'un sujet d'actualité qui est dans leur pays, des situations qui se passent dans le pays et que tu demandes leur avis, beaucoup ne commentent pas. Seules quelques rares personnes commentent et donnent leur avis. Je trouve ça un peu déplorable.
Pendant que certains désapprouvent la folie de la chose, d'autres pensent que les revers ne devraient pas empêcher de voir le bon côté des réseaux sociaux.
C'est difficile de contrôler, d'exercer du contrôle là-dessus. Le discours, il est libre, il est même très, très libre. Donc voilà, cela ne va pas sans conséquences. Mais voilà, il faut faire confiance aussi aux jeunes. Et puis, l'avantage du net, c'est qu'on n'est pas obligé de s'infliger un reportage qui ne nous intéresse pas. Si quelque chose ne nous intéresse pas, on peut zapper.
Je crois que les réseaux sociaux, autant ils apportent quelque chose de bien, mais l'usage que les jeunes en font, vous allez voir aujourd'hui des jeunes en train de se faire l'amour, à se filmer, à se mettre sur les réseaux sociaux. Vous allez voir aujourd'hui des choses impossibles. Les gens ne s'arrêtent plus et je pense, je ne sais pas où ça nous mène. Je me demande, je n'ai rien contre les réseaux sociaux, mais j'ai peur.
Modernité technologique, oui, mais y ajouter un brin de conscience et de vertu paraît bien judicieux. De Cotonou, Ginette Le Adondé pour VOA Afrique.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. African girl, 'cause she's the best that I've ever seen. Eh, 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 eh. I bet she knows she's a beauty queen. Ah, la 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 la. She looks like a movie star, like a video queen walking up the boulevard. She sounds like a radio DJ. On my iPad, shadows on her replay. I love them low tight jeans on her. High heels making shiny look so fly, so nice. Ah, la 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 la. I think I'm falling in love with this girl. Incredible smile, baby, you got it. So big lips and amazing eyes. You know she got that, baby, she got it. I think I'm falling in love. I think I'm in love. I think I'm in love. I think I'm in love with this African girl. I think I'm in love. I think I'm in love. I think I'm in love with this African girl. 'Cause she's the face that I've ever seen. Eh, 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 eh. I bet she knows she's a beauty queen. Ah, la, 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 la. She's a 5'6" beautiful body girl. Educated, shiny, is independent. On the weekend, she'll be popping bottles. And on Sunday, baby, call it church day. She'll be grinding harder on the weekday. And on the weekend, we'll be one sitting. We'll be rolling, shopping, and balling. What a man to do when he's in love. She's no regular girl, she's an angel. The kind of girl a man takes to my mind. She got a perfect smile, she's a diva. I think I'm falling for this girl. African girl, I think I'm in love. I think I'm in love. I think I'm in love with this African girl. 'Cause she's the face that I've ever seen. Eh, 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 eh. I bet she knows she's a beauty queen. Ah, la 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 la.
Yo, little mama, your body be slamming. Hope you pick up the phone when you see that I'm calling. Strolling down the street thinking of you. What am I gonna do? I can't be without you. Making moves straight for the future. Your love is like crack. I'm a dope fiend user. One more every day when I wake up. From a bad dream where your love just stop. Then I turn around, see your body just pop. The curve of your figure make a man go crazy. My life is looking bright 'cause I met you, baby. Know what shows good when I make you my lady.
I think I'm in love. I think I'm in love. I think I'm in love with this African girl. I think I'm in love. I think I'm in love. I think I'm in love with this African girl. 'Cause she's the best that I've ever seen. Eh, 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 eh. I bet she knows she's a beauty queen. Ah, la, 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 la. I think I'm in love with this African girl. I think I'm in love. I think I'm in love. I think I'm in love with this African girl. 'Cause she's the best that I've ever seen. Eh, 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 eh. I bet she knows she's a beauty queen. Ah, la, 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 la.
On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, Becky Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, oui, voilà donc. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avant
sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma.
Ça fait comme jamais. Contrôle la maison, apprécie